Nous allons à présent passer à la communication de ce jour. Je vais vous présenter en quelques mots notre communicant en vous signalant préalablement que postérieurement à cette séance, Édouard Durand signera dans la bibliothèque qui est située en sortant à gauche sur la place de l'Institut un ouvrage... Ah, c'est ici, juste au bout du couloir, un ouvrage publié dans la collection Tracts de Gallimard qui s'intitule « 160 000 enfants ». Donc, après la séance, après 17 heures, en sortant de cette salle. Il va nous parler aujourd'hui de la délinquance des mineurs. La délinquance des mineurs inquiète. Les grands principes énoncés après la Seconde Guerre mondiale dans l'ordonnance du 2 février 1945, qui a été maintes fois modifiée, et depuis le 30 septembre 2021 par le Code de justice pénale des mineurs, sont-ils toujours adaptés? C'est la question qui se pose actuellement. Si l'on examine de près les propositions récemment formulées par l'ancienne majorité, son Premier ministre, au mois de juin dernier, et plus encore celles qu'ont formulées au mois de juillet dernier, les dirigeants de la nouvelle droite républicaine, tel ne serait pas le cas. Dès lors, quel peut être aujourd'hui le rôle d'un juge des enfants? L'excuse de minorité doit-elle subsister? Sans doute s'impose-t-il de revoir certaines des réponses à apporter à des formes de délinquance de plus en plus violentes. Mais la comparution immédiate, dont on connaît certains des travers, est-elle véritablement la meilleure des solutions? Faut-il revenir aux centres fermés? Ce sont notamment certaines de ces questions dont va nous entretenir Édouard Durand. Nul n'est mieux placé que lui pour le faire, car il fut juge des enfants à Draguignan, à Marseille, à Bobigny, qui ne sont pas des ressorts judiciaires parmi les plus simples, et il est aujourd'hui premier vice-président chargé des enfants au tribunal de Pontoise, compétent pour le vaste et difficile département du Val-d'Oise, tribunal départemental. Membre du Conseil national de la protection de l'enfance, membre du Conseil scientifique de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, co-président de la commission violence de genre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, il a, de janvier 2021 à décembre 2023, vous vous en souvenez, co-présidé la CIVISE, en d'autres termes, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les travaux de cette commission, lorsqu'elle les a terminés, ont été quasi unanimement salués, sauf, apparemment, en l'état, par les pouvoirs publics, qui, pour des raisons qui restent à élucider, n'ont pas renouvelé Édouard Durand dans ses fonctions. Depuis lors, cette commission, qui avait formulé nombre de propositions méritant d'être rapidement discutées et plus encore mises en œuvre, attend un sort meilleur, semble-t-il, alors qu'il y a urgence. Les prises de position d'Édouard Durand, ses articles et interviews ne se comptent pas, et il a publié plusieurs ouvrages sur les violences conjugales et les violences faites aux enfants. Il avait, comme pour toutes les communications qui l'ont précédé, carte blanche pour traiter le sujet qui vous est aujourd'hui proposé. Je vais le découvrir avec vous. Nous allons l'écouter. Édouard Durand, vous avez la parole. On vous écoute avec intérêt. Vous avez le temps qui convient. Vous n'êtes pas tenu de parler vite. On vous écoute.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, à l'instant même, je regrette d'avoir accepté votre proposition parce que la terreur me saisit. Alors qu'en réalité, c'est un très grand honneur de me trouver parmi vous, aujourd'hui, parmi vous, devant vous, en ce lieu. Vous me me présentiez à l'instant, Monsieur le Président, la salle où vous aviez coutume de vous réunir, celle présentée comme immuable, cette fixité n'est pas étrangère à ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, s'agissant des enfants délinquants et de tous les enfants. C'est un honneur de me trouver devant vous parce que certains d'entre vous ont été mes professeurs, mes inspirateurs, peut-être même des directeurs de conscience. Et c'est l'enfant timide qui leur parle. C'est un honneur d'être invité par vous, Monsieur le Président, parce que je suis juge, que j'ai pris mes fonctions en 2004, et que tout jeune professionnel a besoin de figures tutélaires, et que vous, président de la chambre criminelle, vous avez été, sans le savoir, pour le jeune juge que j'étais et que j'espère rester, une de ces figures, et votre invitation m'honore. Enfin, c'est un honneur, évidemment, de vous parler de cette fonction de juge des enfants que j'ai choisie sans bien savoir pourquoi, il y a à peu près 25 ans maintenant. Je me souviens seulement que, en finissant mon stage au Conseil d'État, monsieur le secrétaire perpétuel, j'ai décidé de devenir juge des enfants. Et je ne regrette pas, même si dans cet engagement, la joie et la souffrance, la vie et la mort se croisent incessamment. Je n'ai pas choisi de titre pour cette communication, veuillez m'en excuser. Plusieurs me sont venus à l'esprit. Le premier était le fils prodigue. Parce que lorsque nous parlons des enfants délinquants, des enfants fugueurs, menteurs, voleurs, violeurs, nous espérons le retour. Je n'ai pas choisi cet intitulé parce qu'il faudrait un père pour que cet enfant se convertisse et retourne au bercail. Et au fond, c'est peut-être ce dont je voudrais vous parler. Ce qu'il manque, c'est, comme le dit plutôt, un monde laïque, un État. L'État prodigue. J'ai pensé à la guerre des boutons parce qu'évidemment, ce livre de Pergaud, les adaptations cinématographiques qui en ont été faites, nous disent quelque chose de ce que l'on voudrait croire dans une pensée empreinte de nostalgie. Et nous aimerions nous dire que les transgressions des enfants sont celles qui nous ont fait sourire à la lecture de ce livre ou devant ces films. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend dire. Que les transgressions des enfants n'ont pas changé, qu'il en a toujours été ainsi. Et par malheur, la place que j'occupe me conduit à penser qu'il n'en est rien, qu'il y a des changements, malgré des tendances immuables. J'ai pensé, et j'y reviendrai, à un éloge de la culpabilité. Et cet intitulé me permettra, parce que je l'évoquerai, d'évoquer la tension entre le réel et les principes dont nous avons, je le regrette, trop souvent une appréhension esthétique. Nous aimons nous regarder dans nos principes pour nous dire que nous sommes un état de droit. L'éloge de la culpabilité aurait permis de rassembler la honte, la reconnaissance, l'appartenance et d'une certaine manière l'héritage. Cet éloge aurait permis de dire leurs pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. À l'évidence, lorsque nous regardons nos enfants transgresser la loi, nous sommes face à notre échec. J'ai pensé aussi à l'intitulé « Extension du domaine de l'autonomie ». Parce que je n'ignore pas que, en ce lieu vénérable qui nous permet de savoir qu'il y a des choses immuables, je m'exprime alors que les piliers qui nous fondent et nous instituent, me semble-t-il, c'est le pessimiste qui parle, s'effondrent sous nos yeux passifs jour après jour. Jusque dans la pensée même de ce qu'est un enfant. Et d'ailleurs, je dois vous parler de la justice des mineurs. Et je ne sais pas si je dois parler du travail des mineurs quand il en existait encore, ou de ce que c'est que d'être un enfant dans une vie humaine. La minorité, nous la démembrons. Et parmi les propositions que vous avez évoquées dans le débat public, Monsieur le Président, à l'instant, il y a celle récurrente qui revient avant chaque élection, fixer un âge de majorité pénale avant même que l'enfant ne soit devenu majeur. Alors que l'enfance, c'est un bloc. J'aurais voulu choisir, et c'est plus proche de ma pensée et de ma pratique, d'intituler ma communication « Le futur antérieur ». Mieux que personne, Monsieur le Président, vous le savez, c'est à l'imparfait que les juristes s'expriment quand ils parlent du droit pénal, de la criminalité et de la délinquance. Les réquisitoires définitifs des procureurs, les ordonnances de mise en accusation des juges d'instruction sont écrits à l'imparfait. C'est une posture rétrospective, se retournant, s'arrêtant, l'institution cherche à savoir ce qui est advenu. Ce n'est pas le temps de l'enfance. Je crois pouvoir dire que le temps de l'enfance est le futur antérieur. L'objectif est de construire un passé positif. Il aura eu la chance, l'opportunité, la possibilité de devenir un citoyen. J'en ai presque terminé de mes hésitations, voulu intituler cette communication « Au commencement était le Verbe », parce que c'est l'intitulé de toute communication, et que c'est, au-delà de l'enjeu existentiel de toute vie humaine, le problème auquel me confrontent ces fonctions de juge des enfants jour après jour, la confrontation de la violence et du langage. Le bourgeonnement fragile du langage sur un jeune arbre qui n'est que pulsion. Enfin, j'aurais voulu citer une personne illustre pour intituler cette communication. Personne illustre qui a dit « N'oubliez jamais qu'un enfant est toujours éducable. » Et cette mise en garde vient de Gaulle lui-même. « N'oubliez jamais qu'un enfant est toujours éducable. » Mais finalement, l'intitulé que je retiens, c'est une confession. Le premier enfant que j'ai emprisonné s'est pendu dans sa cellule. Je venais de quitter l'École nationale de la magistrature, de prendre mes fonctions, marchant sur mes deux jambes, l'humilité et l'orgueil. Et comme le prévoyait l'un des articles de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié, j'ai signé le mandat de dépôt de ce garçon de 15 ans, 16 ans, 16 ou 17 ans. Il s'est pendu dans sa cellule, mais il n'est pas mort. Au moment où il passait de vie à trépas, il s'est uriné sur lui, ce qui lui a permis de reprendre conscience et de se dépendre au moment même où les gardiens de prison arrivaient. Il avait été présenté devant le procureur de la République, une jeune collègue qui, comme moi, prenait ses fonctions, et entouré de deux gendarmes, il avait été d'une extrême agressivité à l'égard de la procureure de la République. Je me piquais de tenir un interrogatoire calme et serein. J'y suis parvenu. Et au moment où les gendarmes se sont saisis de son corps pour l'incarcérer, sa mère a dit à elle-même, mais à voix suffisamment haute pour que moi et moi seul l'entende, « Je le sens pas. » Et souvent, je pense à ce garçon en me disant qu'il est sans doute devenu un homme, peut-être un père de famille, un citoyen, je l'espère, s'il est toujours vivant. Mais depuis, j'ai mis d'autres enfants en prison. J'ai laissé en liberté des enfants qui ont récidivé. Et je serai jugé au jour du jugement dernier. Je dois donc évoquer la justice des mineurs. Lorsque l'on parle de la transgression des enfants, on dit justice des mineurs. Lorsque l'on parle des enfants malheureux, des enfants victimes, on parle de la justice des enfants. Mon objectif est de parvenir à passer de la justice des mineurs pour arriver à vous parler de la justice des enfants. Le lien entre ces deux dimensions de la justice est d'abord historique. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour que notre civilisation se sentent concernés par le sort des enfants. Elle ne s'occupait que des enfants orphelins et des enfants vagabonds qui étaient considérés comme des délinquants. Elle ne s'occupait pas des enfants dans la maison, des enfants soumis à la puissance paternelle. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que, progressivement, se sont accumulées des lois qui ont apporté des tempéraments à la puissance paternelle. Et en 1945, intervient dans le droit positif l'ordonnance sur l'enfance délinquante. Après-guerre, pendant la guerre, le 2 février 1945, ce vieux général en guerre, dans un pays en guerre, signe l'ordonnance qui commence par ces mots. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Le projet d'ordonnance 6 juin atteste que le gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs et plus particulièrement les mineurs délinquants. Autrement dit, le système judiciaire de traitement des infractions commises par les enfants est un système protectionnel. À cette ordonnance qui crée la fonction de juge des enfants est ajoutée le 23 décembre 1958 l'ordonnance qui crée au Code civil l'assistance éducative, c'est-à-dire la protection des enfants en danger. Le 2 février 1945 et le 23 décembre 1958, quelques jours à peine après l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République, le même homme dit « N'oubliez jamais qu'un enfant est toujours éducable. » L'un des préceptes qui a longtemps traduit cette ambition de protection, ou pour le dire autrement, cette identification généreuse à l'enfant délinquant, nous vient d'un magistrat spécialiste de la justice des enfants, Jean Chazal, auquel on prête le précepte suivant: quand un enfant vole un vélo, ce n'est pas au vélo qu'il faut s'intéresser, mais à l'enfant. Le juge des enfants qui a incarcéré ce garçon qui s'est pendu ne s'est pas intéressé au vélo, ni même au collier, mais à la vieille dame autour du cou de laquelle était attaché ce collier. Et je me demande parfois si ce précepte qui oppose le vélo à l'humain est toujours aussi juste, exact, lorsque on regarde les enfants qui tuent, qui violent, qui agressent, qui le répètent et qui le font sans culpabilité. Je voudrais quelques récits des audiences auxquelles j'ai été confronté. Et je voudrais vous dire que, entre l'exercice des fonctions de juge des enfants à Marseille et mon installation au tribunal pour enfants de Bobigny, j'ai passé quelques années à l'école de la magistrature pour y enseigner ces fonctions. Un temps suspendu de 3 ans. Et 3 ans après, en reprenant mes fonctions à Bobigny, j'ai été marqué par une rupture dans ce que j'ai cru percevoir des comportements, des pensées des enfants délinquants et criminels. Quelque chose avait changé en 3 ans. C'est peut-être moi, tout simplement, qui avait changé. C'est le territoire qui était différent. Mais vous en conviendrez, mesdames et messieurs, de territoires à bien des égards semblables. Jeunes parmi les plus jeunes, pauvres parmi les plus pauvres. Ce qui avait changé, c'est l'intensité de la violence. C'est le recul des limites dans les passages à l'acte. C'est l'enracinement de l'absence de culpabilité. Bien sûr que à Draguignan, à Tarascon, à Marseille, j'ai jugé des crimes extrêmement graves. Et je sais qu'un enfant peut donner la mort, peut briser des vies. Des enfants très jeunes même. Mais il m'a semblé voir l'assurance d'une forme de légitimité dans le passage à l'acte. Ma loi me le permet. On entend parfois des jeunes qui laissent pour mort un être humain et qui disent « il était mou ». Mou, c'est-à-dire dans le coma. Et cette rupture m'a beaucoup interrogé. Bien sûr qu'à l'opposé, j'ai vu des vols, des insultes, des agressions, et que je me suis dit, mais quand j'étais enfant, les gendarmes réglaient ces problèmes sans avoir recours aux tribunaux, que mes professeurs me sanctionnaient sans me faire un casier judiciaire, car comme vous, je suis responsable de quelques écarts que le code pénal a toujours incriminés. Je me souviens aussi de cette jeune fille mineure, pas très connue au sens pénal du terme, et que j'ai mise en prison tout de suite. Ce que je ne regrette pas d'ailleurs. Elle avait commis un vol dans le bus, un vol aggravé parce que c'était un vol sur une personne vulnérable. La vulnérabilité de la victime était qu'elle était aveugle. Et pour qualifier les faits dont j'étais saisi, je lui ai dit « Saviez-vous que cette personne était aveugle ?» Elle m'a dit « Oui ». Alors je lui ai demandé « Mais comment le saviez-vous » Il avait le truc blanc. Et là, en moi, quelque chose a dit « Prison ». Une frontière est franchie. Bien sûr, j'ai vu des jeunes participer à des trafics de stupéfiants. Et souvent, je me suis dit, et souvent encore, je me dis, pourquoi faut-il que l'on envoie les policiers et les gendarmes courir après des adolescents, alors que Pablo Escobar est à 3 étages plus haut dans l'immeuble. Pourquoi faut-il qu'on sollicite à peu près une dizaine de professionnels pour arrêter les derniers maillons de la chaîne plutôt que ceux qui en profitent? Et parlant de l'infraction à la législation sur les stupéfiants, je pense à ce garçon à Marseille qui est l'un des premiers à avoir été exécuté par les trafiquants. Et il a vu une camionnette arriver dans la cité où il vendait du cannabis, la porte latérale s'ouvrir avec quelqu'un qui avait une mitraillette. Il a compris que ces gens venaient pour lui et il s'est enfui. Et les derniers mots qu'il a prononcés avant d'être exécuté sont « Je ne veux pas mourir ». Je pense bien sûr aux actes antisociaux des adolescents, au refus d'obtempérer, aux outrages. J'ai mis des enfants en prison pour outrage dans un pays où on peut faire un bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Ces actes antisociaux, ces refus d'obtempérer, ces outrages sont le fruit de ce à quoi nous consentons. Ces jeunes, comme le dit un pédopsychiatre spécialiste de l'enfance violente, considèrent la police comme une bande rivale. Et le provincial que je suis a toujours une forme d'admiration, d'envie, avec le bruit des sirènes des policiers, et un sentiment de culpabilité, je dois le dire aussi. Mais ce sentiment n'est pas partagé par un grand nombre. Et l'on en vient à lire des procès-verbaux de police en oubliant que par nature, ils font foi, jusqu'à preuve du contraire. Mais, mesdames et messieurs, j'ai vu aussi la violence faite aux enfants. Et vous avez bien voulu, Monsieur le Président, rappeler les fonctions que j'ai occupées à la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Évidemment, j'ai apporté les 80 préconisations que nous avons faites. Je voudrais parler de la violence faite aux enfants parce que l'ordre public ne s'arrête pas aux portes de la maison. Parce que, au moment où on a fermé la Civise, on a décrété une urgence concernant les enfants délinquants. Sans voir qu'une réalité mène à l'autre. J'ai vu des enfants violés 1000 fois dans leur maison. J'ai vu des enfants enfermés dans des cabanes, dans des réduits. J'ai vu des enfants abandonnés dans des maisons isolées dans la forêt, comme dans un conte. J'ai vu des enfants la langue brûlée par un mégot de cigarette. J'ai vu un enfant avec un cocard qui me regardait à l'audience. Et j'ai très bien compris qu'il me disait Je croyais que tu étais là pour me protéger. Ces enfants sont les mêmes, mesdames et messieurs. Je ne le dis pas pour les excuser. On a toujours le choix de renoncer au pouvoir dont on dispose. Je le dis pour que nous comprenions bien que la tentation ridicule de réinstaurer la puissance paternelle ne limitera pas les transgressions des garçons dans l'espace public. Vous pensez que j'exagère, mais il y a quelques années, à peine, un ministre de la Justice remettait un rapport pour déplorer la disparition de la puissance paternelle. On vient chercher les pères et les beaux-pères comme, il y a quelques années, on allait chercher les grands frères. Qui, ici, dirait que ces grands frères étaient des modèles? Nous allons chercher la violence pour arrêter la violence. Voyez-vous, je me souviens d'un jeune à qui il était reproché une infraction de violence, un vol avec violence ou des violences volontaires, et qui attendait dans les geôles du tribunal avant de passer devant moi pour interrogatoire. L'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse était descendue dans les geôles pour s'entretenir avec lui, une éducatrice chevronnée, courageuse, pas très impressionnable. Et arrivant à mon bureau, elle m'a dit « Je suis inquiète. J'ai peur de ce qui va lui arriver quand il va rentrer à la maison. » Alors je fais monter ce jeune, interrogatoire sur les faits. Je rappelle la loi, vous n'avez pas le droit d'être violent, vous serez condamné. Interrogatoire sur la personnalité, je marche sur des œufs. Je dis au père, vous voyez, il va peut-être aller en prison parce qu'il a été violent. Il ne faut pas que la réponse soit la violence. Et cet homme me dit cette phrase qui me marquera à jamais. Si je ne peux pas le frapper, qu'est-ce que je peux lui dire ? Et cette question de cet homme est, de mon point de vue, exemplaire. Pessimiste, j'étais, pessimiste, je suis toujours. J'ai d'abord entendu, puisque la violence est mon langage, vous m'empêchez d'éduquer mon enfant. Mais il y a une approche optimiste, qui est de dire, si la violence n'est pas un langage, apprenez-moi l'autorité, apprenez-moi à parler. Je peux continuer ? Il est l'heure d'arrêter ? Et c'est là, donc, où j'arrive à l'éloge de la culpabilité. J'ai été le juge des enfants qui recevait des enfants qui disaient « Vous le savez, monsieur le juge, moi je reconnais toujours mes faits. Mais là, c'est pas moi. » Et puis qui finissait par dire « C'est vrai, c'est moi. » J'ai été le juge des enfants, de garçons, parfois de filles, qui progressivement arrivaient à franchir les cercles de la culpabilité. Premier cercle, est-ce que c'est vous ? Réponse non. Après plusieurs lectures du dossier, la réponse devient en fait oui. Second cercle, est-ce que c'est grave ? Réponse oui. Pourquoi ? Troisième cercle, parce que ça m'attire des problèmes. Très bien. Y a-t-il d'autres motifs de gravité ? Cercle suivant, parce que ça attire des problèmes à mes parents. Et après quelques heures, jours et mois, on arrive peut-être à une forme d'identification à une victime. Je ne retrouve pas ces échanges dans mes fonctions. Au fond, il se pourrait bien que la prophétie de Pierre Legendre se révèle juste. Aujourd'hui, que se passe-t-il ? Les jeunes sont sommés par ceux qui les précèdent, par la génération libérée de l'interdit et du tabou, de se faire crédit à eux-mêmes, de s'auto-fonder, de s'inventer leur propre loi, puisque le garant a disparu. Eh bien, la défaillance du père, c'est-à-dire de l'État en tant que garant du crédit généalogique, nous revient par effet boomerang, sous une forme inattendue mais logique. Les désinstitués tuent, de très jeunes enfants tuent, et même, ils tuent dans le style qui leur est inculqué, c'est-à-dire comme nous voulons qu'ils soient, sans culpabilité. Alors, comment agir ? C'est évidemment le point que je voudrais ne pas avoir le temps d'aborder parce que c'est plus facile de déplorer que d'ouvrir des chemins possibles. Ma conception du monde est celle-ci. Nous sommes un groupe humain fasciné par le pouvoir et donc par la violence. Nous sommes un groupe humain qui ne reconnaît comme limite que celle de l'imagination humaine. Nous sommes un groupe humain qui a oublié ce que Peggy a dit : une société, une civilisation se juge à ce qu'elle considère comme négociable ou non négociable. Négociable, tout est négociable. La filiation, l'identité, la peine elle-même. Et nous voyons un déchaînement d'imagination pour refaire année après année la justice des mineurs, pour démembrer la minorité, intraitable avec les enfants, et en même temps promouvoir la justice restaurative et toutes ces formes de médiation, de conciliation, qui tendent à instiller l'idée que c'est dans un tribunal, et dans un tribunal seulement, que justice est rendue. Churchill disait, un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant être le dernier qui sera dévoré. Mais nous savons ce qu'est la justice restaurative. Nous savons ce que c'est que d'être en présence de son agresseur et d'être obligé à faire acte d'empathie, d'identification et même de pardon. L'autre piège, c'est celui de l'alternative entre l'éducation et la répression. Les gentils sont plutôt pour l'éducation et les méchants sont plutôt pour la répression. Mais la sanction est partie intégrante de l'éducation. Jusque par la peine. Maurice Berger, pédopsychiatre, encore, dit « valeur de l'acte, valeur de la sanction ». Et je me souviens d'un garçon qui n'était pas dans la toute-puissance, mais dans la toute-impuissance. C'est la pulsion qui le dominait. Il était incapable de se contenir, incapable d'être dans le langage, littéralement. Il ne pouvait pas combiner plus de 3 mots. Naturellement, il ne pouvait pas exprimer la moindre émotion. Il a fallu que je l'envoie en prison. Et lorsque je l'ai revu à l'audience du jugement, il parlait. Il était devenu capable de penser et d'exprimer une pensée. Je ne suis pas du tout en train de vous dire, mesdames et messieurs, qu'il faut mettre les enfants en prison. Mais je l'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles. Ce n'est que lorsque le corps a été arrêté que la pensée a été libérée. Il allait même voir une psychologue. Et je lui ai demandé pourquoi. Il a eu cette réponse merveilleuse et il l'a dit à son juge. Il m'a dit, parce que j'ai l'impression, quand je lui parle, que c'est la seule personne qui ne me juge pas. Mais avez-vous entendu définition plus lumineuse de ce qu'est la psychanalyse? Eh bien, c'est ce jeune qui l'a produite. Il faut que j'en termine, mais c'est bien loin encore. Je voudrais quand même vous raconter une autre audience. Un interrogatoire de première comparution. Et j'ai un jeune qui comparait devant moi un pas gentil, un dur qui me fait comprendre que mon office, il ne le respecte pas. À l'issue de l'interrogatoire, assis, je lui demande de se lever. Et je lui avance le procès-verbal pour qu'il le signe. Il prend le stylo que je lui tends et il signe chaque page de l'interrogatoire. Après quoi, il me regarde et il jette mon stylo sur mon bureau. Et j'entends une voix sortir de moi, au moment où je le fixais, lui dire « Vous voulez une paire de gifles ?» Nous nous sommes regardés une seconde qui a duré une éternité. Je me suis dit que peut-être j'allais recevoir cette gifle. Finalement, il a pris le stylo et il l'a reposé. Et je suis vite monté voir la présidente du tribunal pour enfants de Marseille pour lui dire « Je viens de commettre une faute professionnelle. » Qui n'était pas de dire à un enfant « Voulez-vous une paire de gifles ?» qui était de me mettre en symétrie avec lui. Un vieil ami éducateur me disait quand nous recrutions des éducateurs à ce qui s'appelait encore l'éducation surveillée, le critère était « fait-il le poids ?» Est-ce qu'il fait le poids ? Alors j'ai vite téléphoné à cet ami éducateur, je lui dis « quand j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait le poids ?» Il m'a dit « non, certainement pas ». comment faire le poids? Au moment où je me suis dit que j'allais vous poser cette question, mesdames et messieurs, j'ai pensé au proviseur à qui l'on demande de vérifier la tenue des élèves et qu'on abandonne à leur sort au moindre problème. Faire le poids, c'est d'abord avoir des ordres clairs. Une hiérarchie qui vous soutient jusque dans les limites qu'elle vous fixe. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut parfois reconnaître ses limites. Je suis devenu juge des enfants pour qu'en parlant aux enfants, ils changent. Il m'a fallu accepter que parfois, ma parole était impuissante et que la peine était nécessaire. Alors, je conclus. Je crois fermement, c'est le sens même de mon existence, que si la maison n'est pas un lieu de sécurité, la rue ne le sera pas non plus. Que le père dont parle Pierre Legendre ne peut pas être hors la loi. Et vous connaissez ces mots de Bernanos dans « Sous le soleil de Satan », c'est mon dernier mot. Pour un certain nombre de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire parce qu'elle met à leur disposition et comme à portée de la main un petit nombre d'êtres faibles que le plus lâche peut effrayer. Car, écrit Bernanos, l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie, Édouard Durand. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout, comme vous l'entendez. J'ai dit en début de séance que je vous avais donné carte blanche et vous venez de nous parler à votre façon, de manière peut-être inattendue, de manière peut-être singulière, de manière éminemment personnelle, en y mettant tellement de vous-même.